à tous. Effectivement, je crois que la prière de Tchèque, enfin, comme d'habitude, mais peut-être en particulier aujourd'hui, était bienvenue. Vous savez qu'on doit animer un camp en début septembre avec Anita, Marie-Jo, Tchèque et moi. Et le thème que nous avons choisi cette année, c'est « Rester connecté ». Rester connecté à Dieu, à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, à l'église. Et hier soir, j'ai été déconnecté. Et c'est peut-être pour ça que je n'aurais pas la fluidité que j'aurais souhaité. J'étais en train de revoir ma prédication et tout d'un coup, paf, plus d'électricité, donc plus d'internet. Donc, le temps d'aller voir ce qui se passait, j'ai perdu un peu de temps, je crois avoir trouvé, donc je vais essayer de réparer tout à l'heure. Mais j'ai failli faire comme Raymond à l'ancienne.
Hein.
Rustique. Mais je crois qu'on va y arriver avec l'aide et la grâce de Dieu. Comme souvent, le thème de ma prédication a été inspiré par une lecture matinale. Les trésors de la foi. C'est ceci, le deuxième verset de Jean 15. Il retranche tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruit. Et là, déjà, c'est une traduction, qui ne correspond pas forcément à celle que vous avez dans votre vie. Il y a des mots qui ne sont pas tout à fait à la même place. Mais nous avons la chance dans cette région de pouvoir avoir sous les yeux l'illustration vivante de ce qui est dit, non seulement dans ce verset, mais dans le début du chapitre 15. Il est en effet parlé de la vigne. Et là, vous avez quelques étapes de la culture d'un vignoble. La plantation, là c'est en hiver, là c'est après la récolte, ils en ont laissé un petit peu. Là c'est la belle fructification, là c'est au printemps, et là c'est une fois que ça a été récolté et avant la taille. Toutes ces étapes de la vie de la vigne sont aussi des étapes de notre vie. Et lorsque j'ai lu ce verset 2, Marie-Jo m'a offert il y a 2 ans maintenant, je crois, un livre qui s'appelle, enfin c'est l'encyclopédie des difficultés de la Bible, des versets difficiles. Et le tome qu'elle m'a offert, parce qu'il y en a 8, je crois, c'est les évangiles et les actes. Et lorsque je me suis plongé dans les commentaires de ce verset 2, eh bien, quelle n'a pas été ma surprise? Il y a à peu près 5 pages, alors que d'habitude, il y a une demi-page. Et en particulier sur un verbe, qui est le verbe « aïro » en grec. Ce verbe « aïro » qui est traduit dans quasiment toutes les versions par le verbe « retrancher » en français. Or, ce verbe « retrancher » n'est pas la première signification du verbe « aïro » en grec. La première, c'est « remonter, élever ». Retrancher ne vient que loin après. Lisons ce passage. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Texte riche, n'est-ce pas? Qui mérite des heures et des heures de méditation, de réflexion, de prière, pour que le Seigneur nous enseigne tout ce qu'il veut dire au travers de cela. On va... malheureusement, si j'ose dire, le survoler ce matin, parce que je ne voudrais pas vous priver de votre sieste, donc on va faire une prédication d'un temps correct. Mais lorsque on voit des vignes, on sait que le vigneron, quelque temps avant, il a bien fallu qu'il les plante. Et pour planter une vigne, eh bien, il faut d'abord labourer. Et j'étais impressionné de voir à quelle profondeur les tracteurs labourent avant de planter une vigne. Là, c'est encore un peu moins, mais lorsqu'ils ont labouré à côté de chez nous, le tracteur était incliné quasiment à entre 30 et 45 degrés, parce qu'ils labourent à 80 cm de profondeur, voire plus. Et pourquoi est-ce qu'ils labourent aussi profond ? Eh bien, c'est pour enlever tout ce qu'on voit ici, mais qu'on voit assez mal, les pierres. Et les pierres, qu'est-ce que c'est pour nous? Qu'est-ce que c'est que ces grosses pierres que le Seigneur doit enlever lorsqu'il nous laboure? Eh bien, c'est tout notre péché, c'est tout ce qui n'est pas bon en nous, que le Seigneur veut enlever pour les mettre de côté, pour nous préparer à recevoir sa parole, à recevoir son esprit. Et de façon identique, lorsque le vigneron enlève les cailloux, il ameublit la terre. Et qu'est-ce que veut faire le Seigneur avec nous? Ce qui est dit dans Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Lorsque le vigneron ameublit la terre, il enlève les cailloux. Lorsque le Seigneur enlève de notre vie les cailloux, les péchés, les mauvaises choses, eh bien, il ameublit notre cœur afin de rendre aussi ce terrain fertile, qu'il puisse recevoir la parole que le Seigneur veut nous donner. Je n'ai pas mis tous les textes, mais vous connaissez bien ces trois évangiles dans lesquels on retrouve la parabole du semeur. Le semeur qui s'est levé pour aller semer et qui a trouvé parfois des cailloux, ça n'a pas poussé, qui a trouvé un tout petit peu de terre, ça a poussé et puis c'est mort. Il a trouvé parfois un petit peu plus, mais les épines, les ronces sont venues. Et enfin, il y a un terrain qui est fertile. Et là, la parole peut pousser, la parole peut prendre racine. Et c'est ce que fait le Seigneur lorsqu'il nous laboure, lorsqu'il enlève tout ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit « Toute plante qui n'est pas plantée par mon Père céleste sera déracinée. » Lorsque c'est le Seigneur qui plante sa parole, son esprit en nous, eh bien, ça peut pousser. Ce n'est pas les hommes qui peuvent planter la parole. On peut, et c'est ce qu'on va essayer de faire au mois de septembre, enseigner, faire lire la parole, faire découvrir la parole. Mais l'essentiel de la Bible que nous allons présenter, si ce n'est pas le Seigneur qui la met dans le cœur de ceux qui recevront nos paroles, eh bien, ça ne servira de rien. Dans Ésaïe 27, chantez un cantique sur la vigne en l'occurrence représentant le peuple d'Israël. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Le Seigneur, puisque nous sommes devenus sa vigne, eh bien, il continue à nous arroser par sa parole, par son esprit. Il nous garde, il nous protège de nos ennemis, parce qu'il tient à nous, parce qu'il nous aime plus que tout. Le premier verset de cet évangile de Jean, au chapitre 15, nous dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Est-ce que vous avez déjà vu un cep dans deux circonstances particulières? Un, avant la plantation. C'est ça. Et un, en hiver. On a l'impression que c'est un arbre mort. Et avant, on se dit, mais comment ça va pouvoir pousser? Mais il y a ça, et surtout, il y a ça là-haut. Ça, c'est le porte-greffe, et ça, c'est le premier sarment. C'est ça qui va pousser. C'est ça qui va donner son caractère au raisin que l'on va récolter ensuite. Et là, on voit, on va en reparler après, il y a encore des sarments que le vigneron a gardés pour qu'ils produisent encore plus de fruits. Et ces deux images, je trouve, correspondent bien à la description qui nous est faite de Jésus dans Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Quand on voit l'image du pied de vigne avant sa plantation, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Effectivement, lorsque vous achetez un fagot de future vigne, c'est comme ça, les racines sont nues. On a l'impression que c'est tout sec. Et pourtant, ça va pousser. Un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous. Voilà la description d'un plant de vigne avant sa plantation et après sa taille. Quelque chose qui n'a aucun aspect et dont on n'imagine pas, sauf nous, puisque nous vivons dans cette région, que ça va devenir, quelques mois plus tard, une superbe plante. Et voilà ce verset si difficile, le verset 2. Là, c'est une autre traduction. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Certains ont analysé cette phrase comme étant la possibilité pour un chrétien de perdre son salut. Si Dieu retranche le sarment, s'il l'enlève du tronc, il meurt. Mais non, rassurons-nous, rassurez-vous. Parce que ces sarments dont il est parlé, eh bien, c'en sont d'autres. C'est ceux qui sont attachés au tronc, effectivement, mais de mauvaise façon. Ce ne sont pas ceux qui sont là-haut, qui sont au-dessus du point de greffe et qui sont vraiment hantés, puisque c'est l'autre mot pour greffer, sur le tronc.
et qui puisent toute leur sève dans le tronc et donc dans les racines. Ce sont donc les chrétiens qui sont vraiment attachés à Christ et que Dieu a planté. Mais il y a d'autres rameaux que l'on trouve ici. Là. Et voyez qu'est-ce qu'il a fait le vigneron. Ceux-là, il les a coupés. Ceux-là, ils sont sous le point de greffe. Et ceux-là, ils ne servent à rien. Il faut les enlever. Parce qu'ils pompent la sève pour ne rien produire. Et donc, c'est ceux-là que Dieu veut enlever. C'est aussi les gens qui, pardon Seigneur pour les jugements, mais qui ont une façade de chrétiens, mais qui ne sont pas de vrais chrétiens, qui se disent, mais qui ne sont pas. Et c'est cela que le Seigneur veut retrancher, que le Seigneur veut enlever, parce que eux, ils ne pourront jamais porter des fruits. Et donc, il n'est pas nécessaire de les garder. Au contraire même, ils vont empêcher, lorsqu'ils sont trop nombreux, le développement des branches supérieures. Dans certains cas, on a fait le rapprochement entre cela et la parabole du bon grain et de l'ivraie. Où l'ivraie, vous vous souvenez, se mélange complètement aux racines du bon blé et qu'il est impossible humainement de séparer. Mais Dieu, lui, sépare. Parce qu'il sait ce qui n'est pas bon. Une autre façon de traduire ce verset peut être de dire « Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi » et non pas « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit ». On ne peut porter du fruit, et on le verra dans les versets suivants, que si on est vraiment en Christ, uni à lui, et que c'est la même sève, et donc comme dans un cep, c'est la même sève qui irrigue le tronc et les sarments du haut, et bien si c'est la même sève, le même esprit qui irrigue le cep, Jésus, et les sarments, nous, l'esprit de Dieu, parce que c'est Dieu qui a planté. Et donc là, on peut porter du fruit en lui. Et l'autre traduction, pardon, il le relève. C'est l'autre sens du mot aïro. Je n'ai pas eu le temps de trouver justement l'illustration, mais il y a quelques mois, avant qu'il ne replante, il y avait une vigne qui n'était pas entretenue. Et on voyait tous les sarments qui étaient courbés et qui traînaient à terre. Et si vous allez voir ces sarments, eh bien vous verrez quasiment rien, ou alors des grappes pourries, parce qu'elles sont par terre. Parce qu'elles ont toutes les maladies, elles ont toute l'humidité. Et donc, pour que ça reproduise, enfin, ça reproduise, il faut relever ces sarments. Et c'est exactement ce que fait le vigneron. Vous voyez ici l'illustration ? Le cep, si on la laisse traîner, ça ne va pas. Il faut l'élever pour l'accrocher, en l'occurrence, à des fils de fer, afin que ce sarment soit bien aéré. Et là, il va pouvoir produire. Et on va pouvoir trouver ici d'autres sarments qui vont repartir et qui produiront de belles grappes de raisin. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le relève. Ça veut dire aussi que dans certains cas, on peut être un vrai sarment, mais pour une raison ou pour une autre, on est affaibli, on est par terre, on n'y arrive plus. Eh bien, que veut faire le Seigneur ? Il nous relève, afin que nous puissions à nouveau produire du fruit. Il nous enlève du monde, par exemple, lorsqu'on a pu pas y retomber, mais un peu trop le fréquenter, eh bien le Seigneur nous prend et nous met en l'air, au-delà, au-dessus, là où il y a du bon air, là où on peut à nouveau avoir son esprit. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le relève. Et j'aime bien cette traduction. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Non seulement le Seigneur ne se contente pas de relever les sarments, mais en plus il s'en occupe. C'est pas le tout de les relever, mais si on s'en occupe pas, eh bien ça va repartir.
Et donc, il y a ce qu'on appelle l'émondage.
Le vigneron, il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Si vous voyez, je pense que de temps en temps, vous devez parcourir les vignes, la façon dont les vignerons passent dans les champs, mais on se dit, mais comment ils font? On les voit, ils marchent comme ça, puis tac, 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 tac. Et il n'y a pas une erreur. Hein. Tout est coupé exactement comme il faut, comme l'indiquent les normes pour avoir l'appellation contrôlée. Ils ne se trompent pas. Hein. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. Il ne se trompe pas lorsqu'il nous émonde. Il coupe exactement là où il faut et ce qu'il faut. Il y a plusieurs façons d'émonder. De même que la taille de la vigne n'est pas la même selon la variété de raisin. Il y a des tailles en gobelet, des tailles en échalas, des tailles ceci, cela. Mais le Seigneur, lui, c'est pareil. Il nous émonde en fonction de son désir et de nos besoins. Et il nous émonde de différentes façons. De même qu'il y a la taille de printemps, la taille d'hiver, la taille en verre, eh bien le Seigneur lui fait aussi toutes choses parfaitement. Il peut nous émonder par les Écritures. Il y a bien sûr d'autres passages que cela, mais j'ai choisi 2 Timothée 3, verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça dont nous avons besoin. Être enseigné, convaincu, être corrigé parfois. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et merci parce que tu nous instruis, afin que nous puissions progresser et produire du fruit. Dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, jusqu'à partager âme et esprit, jointures et membres. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et ça, c'est l'image de la taille violente qu'il faut parfois faire à une vigne, et que le Seigneur, parfois, est obligé aussi d'utiliser avec nous. Ce n'est pas que de la taille douce, c'est parfois des choses beaucoup plus importantes qu'il faut faire. Et donc, les épreuves sont parfois là aussi pour nous émonder, pour couper ce qui n'est pas bon, pour jeter au feu ce que l'on aura enlevé. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verve tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. L'émondage est quelque chose d'indispensable à la vigne et quelque chose d'indispensable à nous, ses enfants. Parce qu'on n'a pas à craindre cela. La sève, elle arrive toujours en haut du rameau qui a été coupé. L'Esprit de Dieu continue à circuler en nous, même lorsqu'il nous enlève quelque chose auquel on tenait parfois, mais qui n'était pas bon pour nous, qui ne servait à rien pour le Seigneur. Mais Dieu l'a retranché, Dieu l'a enlevé. Mais néanmoins, il continue, parce que ce rameau qui va repousser, eh bien, il faut encore le diriger, il faut encore le palisser, pour qu'il soit toujours beau et qu'il porte du fruit. Et justement, et je m'aperçois que j'ai fait une erreur, parce qu'en relisant le texte, il n'est pas parlé des fruits, mais il est parlé du fruit. Pour la vigne, les fruits, on les connaît. C'est des grappes, les belles grappes, qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure qu'on s'occupe de la vigne. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, parce que les vieilles vignes, elles ont moins de grappes que les jeunes. Mais le raisin est tellement meilleur. Et le vin qu'on en tire est tellement meilleur. C'est pas à la quantité, mais c'est à la qualité que Dieu veut juger. Les œuvres, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, de les multiplier. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des œuvres qui plaisent au Seigneur. Et c'est pour ça, je crois, qu'il est parlé du fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit ? bien je crois que le dernier verset de ce qu'on a lu est extrêmement important. Mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le premier fruit qui est décrit dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le premier fruit cité, c'est l'amour. Dieu nous a aimés en premier. Si nous, nous n'aimons pas, on ne peut pas apporter de fruit. Si on n'aime pas quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Si on n'aime pas le Seigneur, comment peut-on se laisser cultiver par lui, se laisser émonder lorsque c'est nécessaire? Savoir que ce qu'il fait est parfait et que ce qu'il retranche, c'est parce qu'il sait que ce n'était pas bon. Peut-être que nous, on trouvait que c'était bien. Finalement, on s'était fait plaisir. On avait fait une belle œuvre. Mais non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce matin, Marie-Jo rappelait, en lisant notre texte, l'histoire de David, qui voulait construire un temple. Le Seigneur lui a dit non, c'est pas toi, c'est ton fils qui le fera. Ça doit être quand même dur, non? On se dit, tiens, Seigneur, je vais faire quelque chose de beau pour toi. Ben non, j'en veux pas. J'en veux, mais par Salomon. Et donc le Seigneur, parfois, nous enlève des choses auxquelles on tient, mais qui ne sont pas, soit pas bonnes pour nous, soit pas belles à ses yeux. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et si on aime Dieu, eh bien, on aime qu'il nous aimons. On aime qu'il nous cultive, qu'il nous donne de produire de plus en plus de fruits. Alors là, je ne vous demande pas de lire parce que c'est illisible. Mais par contre, il y a des petits mots soulignés en rouge. Enfin, écrits en rouge. Et lorsqu'on lit ce texte, bien sûr, on connaît le premier et le deuxième verset. Je suis le cep, mon père est le vigneron. Il est mon, il coupe les sarments. Mais tout le reste du texte, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 11 fois, demeurez. Demeurez en moi. Demeurez dans mon amour. Demeurez fidèle. Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, lui, il porte beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse merveilleuse! Qu'on a, j'ose dire, souvent du mal à réaliser et à se dire, mais est-ce que vraiment ce que je demande, c'est bien ce que le Seigneur veut? Eh bien, demandons, et si ce n'est pas bon, le Seigneur nous le dira. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez. Si on suit ce que nous dit le Seigneur, forcément, on demeurera dans son amour. Naturellement, on aurait tendance à facilement à s'en éloigner, même si on le veut. Raymond nous a bien enseigné la semaine dernière, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Mais si on veut faire le bien, eh bien il faut demeurer dans l'amour du Seigneur. Et alors on pourra faire ce que le Seigneur veut et porter le fruit qu'il veut. Quel est le synonyme de demeurer? Enfin, un des synonymes, parce qu'il y en a une bonne vingtaine, quand on regarde un dictionnaire, mais il y en a un qui, je crois, doit nous caractériser. Il faut persévérer. Même dans les difficultés, même lorsqu'on a l'impression que le Seigneur nous a coupé un peu court, parce qu'il a coupé les rameaux, persévérer.
Vous avez besoin de persévérance, nous est-il dit dans l'Épître aux Hébreux, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui nous est promis. Et qu'est-ce qui nous est promis? Comme le rappelait Charles, ce n'est pas un tapis de rose, parce qu'il y a encore des épines, mais la vie avec Dieu, c'est ça qui nous est promis. La vie sur terre, avec son esprit, et bien sûr, la demeure céleste qui nous prépare. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Persévérez et vous obtiendrez ce qui vous est promis. Et alors, nous pourrons, comme nous le montre cette belle image, porter du beau fruit pour le Seigneur. Parce que nous sommes greffés, nous sommes irrigués par la sève, par l'Esprit de Dieu, et c'est cet Esprit qui peut nous aider à produire du fruit. Ici, il y a des fruits, mais nous, c'est du fruit. Et en tout premier lieu, l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est le plus beau fruit que le Seigneur nous ait donné. Amen.
Merci Gérard, c'est une belle illustration de ce que Dieu attend de nous. À la pasto, on a planté un peu la vigne, et puis après on a mis une file, et puis après on a constaté que ça a poussé, et puis après tout est par terre. Et après Marc m'a dit, mais mets les fils. Et après j'ai pris, et ce que m'a touché avec les vignes, ben, il y avait certaines branches où il y avait du fruit, il y avait d'autres branches. Et là, il me semble que leur objectif, c'est de juste accrocher sur le fil. Il y a toutes sortes de petits bras,
on va dire comme ça. Et puis, ça m'a vraiment étonné de voir comment, même que ça fait...